Tout de suite, le nouveau rendez-vous début de semaine. Alors, comme chaque lundi, petite bande-annonce du programme comme un avant-goût de ce qui vous attend, de ce qui nous transporte. RER en ouverture.
L'enfer Rochefort. Attention à la marche en descendant du train.
On est en plein dans de la fiction terrifiante.
Réseau. Secret. Agent secret.
Je m'appelle Dov Alphon. Et dans mon expérience, on peut espionner quelqu'un à 4000 km de distance, on peut lire tous ses mails.
Ce moment m'a transformé. Je crois que j'ai touché beaucoup plus clairement l'épaisseur des vies. It's not time
yet. Quelques heures plus tard, Kevin entrait dans notre groupe. Ça se voyait qu'il avait envie de pleurer.
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah.
Une petite révolution quand le modèle noir bouscule le très réputé musée d'Orsay à Paris.
Moi, en tant qu'artiste, ma réflexion, c'est finalement comment faire peuple.
Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor.
Beaucoup de tempérament cette semaine dans le NRV, beaucoup d'invités. Malik Djoudi qu'on entend demain, ce sera en live avec à ses côtés Jairo Bustamante pour son film Tremblement sur l'homosexualité persécutée au Guatemala. JJ Johansson en live, encore un live dans la semaine, ce sera jeudi. Ce sera question d'Emmanuel Macron demain soir dans le NRV la suite. Un dossier RER mercredi avec en première partie la toute nouvelle valeur du cinéma français Caroline Poggi et Jonathan Vinel pour leur film Jessica Forever. Tout à l'heure, un gros plan sur l'exposition Modèle Noir à Orsay. Et tout de suite, secret, agent secret avec Dov Alphon et Bojina Panayotova.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes lundi 29 avril. Ravi de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. Le NRV fait sa rentrée et compte double puisque vous nous écoutez dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et puis aussi en podcast et que vous nous retrouvez à l'antenne comme tout le monde de 22h à minuit. Ce soir, une émission agent secret, espionnage et secret de famille avec nos deux invités. Dov Alphon pour Unité 8200, un roman d'espionnage hyper documenté de l'intérieur par un ancien officier des services de renseignement israélien, grand reporter, aujourd'hui correspondant en France du quotidien Haaretz. C'est votre premier roman et c'est un coup de maître. Dov Alphon, bonsoir.
Merci, bonsoir.
À vos côtés, Bojina Panayotova, embarquée dans un film de famille, Je vois rouge, au programme de ce documentaire, police secrète en Bulgarie, mafia, paranoïa, post-communiste, enquête sur une famille du parti qui a fait l'objet de dossiers. Alors, quel a été le rôle de vos grands-pères, de votre père, de votre mère? Révélation et permis de conduire, pour vous, vous avez réussi d'ailleurs. Bojina Panayotova, bonsoir.
Bonsoir.
Dans le NRV La Suite, on partira au musée d'Orsay à la recherche de Joseph, de Laure et de Madeleine. Des oubliés de l'histoire de l'art qui ne s'est intéressé qu'à la couleur de leur peau et des oubliés qui retrouvent aujourd'hui leur identité dans une exposition modèle, Benoît Lagan.
Oui, une exposition événement, les modèles noirs, donc au musée d'Orsay, exposition artistique, culturelle et politique. Pour en parler, ils seront quatre, le musicien et écrivain Abdelmalik, la présidente du musée d'Orsay Laurence Descartes, l'historien Pape Ndiaye et la journaliste du Point Valérie Marin-Lamellé.
Tout de suite le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Espionnage, agent de secret de famille, voilà ce qui vous lie Dov Alphon et vous, Bojina Panayotova. Un premier roman pour vous, Dov Alphon, Unité 8200, best-seller en Israël pendant 2 ans de suite. Bravo. Je vous laisse présenter cette unité dont vous avez vous-même fait partie, Dov Alphon, pour notre autre invité. C'est quoi cette unité? Ça consiste en quoi?
En fait, c'est une unité ultra secrète où même le simple fait de dire Unité 8200 à l'antenne de France Inter et de NRV aurait pu, il y a quelques années, m'amener à plusieurs années en prison. Mais il est impossible maintenant de contenir les réussites à la fois d'espionnage et surtout technologiques que cette unité a inventé, puisque c'est en fait une unité formée de très jeunes gens, entre 18 et 24 ans, ce serait la moyenne d'âge, qui non seulement sont responsables de toutes les écoutes que l'armée israélienne aurait pu avoir besoin, mais aussi pour développer des méthodes d'espionnage. Et quelquefois, ces développements deviennent dans le monde réel, le monde civil, des technologies que tout le monde utilise. Par exemple, l'unité 8200 a inventé, entre autres, Waze, donc l'appli anti-embouteillage. D'autres pionniers ont inventé à 8200 les messages, tout ce qui est texte sur réseaux sociaux et bien d'autres encore. Et donc, en fait, on ne peut plus dire cette unité secrète. Et donc, j'ai pensé, tiens, je vais ajouter ma goutte là-dedans.
Un premier roman et non pas justement un ouvrage documentaire que vous auriez bien pu réaliser. Quelle a été l'affaire, hors ce roman, l'affaire la plus spectaculaire révélée par unité 200?
Je pense que on a dit, et donc c'est dans le domaine public, que 90% des réussites militaires israéliennes ces 10 dernières années viennent d'informations récoltées par 8200. Ça peut être effectivement une histoire d'écoute, comme par exemple prouver que la tragédie de l'Akil et l'Oro venait de terroristes palestiniens, mais ça peut être aussi par exemple un bombardement d'une centrale nucléaire en Syrie il y a quelques années. Tout ceci vient de réussite et de performance de 8200, sous fond bien sûr de problèmes éthiques, de problèmes de savoir, y a-t-il une frontière à cela? Est-ce qu'on fait ce qu'on veut dans ce monde? Et c'est ça qui m'intéressait.
Vous en avez fait partie?
Absolument, j'ai été d'abord soldat dès 18 ans, ouais. Et ensuite officier. Et donc, oui, j'en ai fait partie. Et ce n'est pas que je claque la porte en faisant un roman là-dessus. Hein. Ça fait partie de ma vie. Mais il y a tellement de choses que j'entends et que je vois et qui me laissent penser que autour de nous, le public français ou autre, hein, puisque le livre va être traduit dans 12 langues, les gens ne comprennent pas à quel point ils sont espionnés et pourquoi. Et donc, c'est ce que j'avais voulu un peu relater.
Quelque chose qui vous concerne de plein fouet, j'allais dire, Bojina Panayotova. Ça fait écho. Vous connaissez cette unité?
Non, pas du tout.
Même que le livre, d'ailleurs, a eu un certain succès aussi en Bulgarie, d'ailleurs.
Oui, hein, absolument. Oui, c'est un best-seller dans 4 pays maintenant.
Et notamment la Bulgarie, en raison de leur histoire, bien entendu.
Oui, on aime bien la surveillance.
Je peux imaginer. Alors, Bojina Panayotova, vous signez Je vois rouge, un film documentaire qui est sorti la semaine dernière, commencé en 2014. C'est un retour en Bulgarie sur les traces de vos parents, de votre enfance communiste, sur l'histoire de ce pays, sur sa police secrète, dont aurait fait peut-être partie vos parents, c'est ce que vous avez tenté de découvrir. Qu'est-ce qui vous pousse à ce moment-là, on est en 2014, à interroger ce passé? Vous vous doutiez de quelque chose? Vous soupçonniez vos parents d'avoir eu un rôle politique?
Alors en fait, on est plutôt fin 2013, au moment où il y a un grand mouvement de contestation dans la rue à Sofia, qui dénonce la continuité entre le pouvoir communiste d'avant et le pouvoir d'aujourd'hui, et surtout le pouvoir dans les coulisses. Donc les oligarques et la mafia qui seraient issus justement des anciens réseaux, de la police secrète, de la nomenclatura, etc.
On vous voit d'ailleurs, pas vous, mais vos collègues dénoncer par exemple qu'un écrivain était encore un écrivain qui était lié au parti, était encore vécu comme un écrivain national. C'était qui? Il y a longtemps, en 2013, que le recteur.
Ouais, c'est le recteur.
Que
oui.
Le recteur de l'université est fils, justement, de quelqu'un qui a fait partie de la nomenclatura.
Oui, ouais. Voilà, que c'est les mêmes personnes qui étaient au pouvoir avant, à la tête des institutions, qui le sont encore. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là vis-à-vis de. Enfin, j'ai pas de soupçon particulier par rapport à ma famille. En fait, je débarque plutôt en Bulgarie avec un grand sentiment de nostalgie pour mon enfance sous le communisme, puisque je suis née là-bas, j'ai vécu 8 ans sous le régime. Et en fait, quand je me retrouve dans cette manif quoi, qui se répète tous les jours, y a un énorme conflit à l'intérieur de moi qui naît, parce que j'entends les gens crier « ordures rouges ». Et en fait, je vois que moi, dans ma famille, ils sont rouges, mes grands-parents sont rouges, mes parents l'ont été aussi, enfin, etc. Moi-même, je me vis en quelque sorte comme rouge. Et puis voilà, je commence à entendre des conversations sur toute cette répression, la police secrète dont j'avais pas tellement entendu parler, ou en tout cas, c'était très abstrait, je voyais pas du tout le rapport avec ma famille. Et je commence à me demander, mais comment ça se fait que...
Dans ma famille, on a beaucoup voyagé, mes grands-parents ont voyagé.
Énormément voyagé, vous montrez, enfin, ils ont plus voyagé que moi. Enfin, ils sont allés partout à l'époque, partout, partout. Alors que même que la Bulgarie n'était pas un pays où les ressortissants pouvaient voyager aussi facilement.
Oui, oui, c'est, en fait, c'est lié à leur métier. Donc, j'ai un grand-père qui était intellectuel, enfin, critique de cinéma, qui donc allait dans des festivals et ça le faisait voyager, effectivement. Et l'autre était au ministère du Commerce et donc de la même façon, il voyageait. Et en fait, c'est mon moniteur d'auto-école, puisque comme vous l'avez dit en introduction, je
C'est passais... quand même la colonne vertébrale et presque la métaphore de ce premier film. C'est-à-dire que pendant ce premier film, vous passez votre permis de conduire. Et permis de conduire, c'est la métaphore pour la ligne de vie que vous allez adopter, bien entendu.
Oui, c'est ça. Et mon moniteur d'auto-école devient un peu mon guide, mon conseiller, mon psy.
Totalement, voilà. Oui.
Mais il est aussi tout simplement quelqu'un qui n'est pas du même milieu en fait socio-culturel que moi. Et donc pour lui, quand je lui explique que je commence à me poser des questions sur ma famille qui a pu voyager, qui a pas tellement parlé de la répression, etc., il me dit ben c'est évident, ils étaient dans le système, ils étaient dans la police secrète, c'est tout ça est tout à fait normal parce que pour lui être dans l'intelligentsia, être intellectuel à ce moment-là, ça veut dire donc, on est dedans. Voilà.
Et donc, dedans, c'est... jusqu'à quel point ? Alors, ça, c'est la révélation du film. Vous comprenez cette démarche de Valfon, j'imagine ?
Bien sûr. D'abord, je trouve passionnant toute histoire d'immigration. Venant d'Israël, c'est assez naturel que je le pense. Moi-même, donc, j'ai quitté la France à l'âge de 11 ans pour me retrouver dans une ville assez difficile de la côte méditerranéenne en Israël. Et j'ai ressenti, moi aussi, une nostalgie de la France que je n'ai pu. Comme j'ai fait un service militaire dans une unité secrète où je ne pouvais pas prendre des vacances, ça a pris presque 30 ans pour revoir mes rues d'enfance. Et donc, d'abord, je comprends déjà le premier déclic. Et après, ça me semble évident qu'on veut savoir à quoi ça sert, vous pourriez demander avec raison à notre invité. Mais je pense que sans ça, il serait difficile de continuer à créer, à écrire. Et donc, je comprends tout à fait, bien sûr.
Pour quelle raison vos parents ont quitté la France ?
D'abord, nous étions, pour moi, nos ancêtres les Gaulois, c'était tout à fait ça. Hein, donc, c'est sûr que... Quand, revenant dans notre appartement de la rue Broca, mes parents m'ont annoncé que dans 3 semaines, nous allons monter sur un bateau pour aller en Terre Sainte, dans la Terre Promise, où j'aurais, en plein milieu d'année scolaire, où je savais déjà dans quelle école j'étais supposé continuer à Paris, ça m'a fait un choc. Maintenant, d'un autre côté, les raisons, qui sont un incident antisémite dans la compagnie où mon père travaillait, sont tellement profondes et tellement choquantes. On peut dire, oui, c'est un idiot, ça n'a aucun rapport avec la France, etc. Mais on ressent ça sur un plan tout à fait personnel. Je le comprends aujourd'hui. Je ne l'avais pas compris alors.
C'était à quelle époque ?
C'était en 72.
En 72, donc, un acte antisémite pousse vos parents à quitter la France.
Oui, oui, oui. Et c'est donc un choix personnel. Ils étaient sionistes de manière très abstraite et ils le sont devenus dans la vraie vie. Et j'ai été au bout de quelques années, je suis devenu le parfait Israélien. Ce qui aussi, beaucoup d'immigrants peuvent vous le dire, voilà, j'étais un parfait Israélien, j'allais à la mer, j'ai été au scout, j'ai été à l'armée, j'ai été sélectionné de dizaines de milliers d'autres vrais Israéliens pour être à 8-200 et je le sentais comme un devoir envers mes parents.
J'imagine que ça fait écho, hein. Justement, je vous voyais, Bojina Panayotova, lever la main en disant, ouais, moi aussi. Vous êtes devenue quoi? Une parfaite française. Oui, parce que vous, c'est le chemin inverse.
Ouais, oui,
vous avez quitté
le
la
chemin
Bulgarie
inverse,
pour arriver en France.
Oui, et moi, c'était très, très difficile au début, parce que, quand je suis arrivée, je parlais pas vraiment français. Enfin, j'avais quelques notions, parce que ma mère m'avait appris quelques mots. Mais ensuite, les 20 ans qui ont suivi, je pense que tous mes efforts de guerre étaient dans devenir française. C'est beaucoup passé par l'école aussi. Voilà, j'ai fait des études qui m'ont amené à Normale Sup et compagnie. Mais je pense que c'était un souci de s'intégrer, quoi. Et donc, ensuite, Une fois que c'était fait, bah, j'ai eu besoin de revenir en arrière.
Et alors là, et c'est le retour du refoulé.
Exactement.
Et même vos parents, votre père, qui vous reproche d'être française à ce point, de chercher dans les détails, et quelque chose ne passera pas. On vous a demandé tous les deux des sons pour mieux faire connaissance. Un son de télévision pour vous d'abord, de Valfon.
Ce sont des agents de renseignement, des informateurs de la nuit. Ce sont tous des agents secrets et ce sont parfois des agents doubles. Mais on les appelle plus communément des espions. 20e numéro d'apostrophe, donc les espions.
Et vous avez choisi ce son de Valfon, et c'est très étrange et presque un son complotiste, parce qu'il y a un écho phénoménal sur la voix de Bernard Pivot, qui recevait dans cette émission d'apostrophe Léopold Trepper, dont vous dites qu'il est sans doute le plus grand espion du XXe siècle.
L'homme qui a pu révéler à Staline que Hitler allait envahir la Russie et bien d'autres choses, il n'a jamais été cru, ce qui est très très typique de ce monde. Et maintenant, ma femme est la nièce, la petite nièce de Léopold Trepper, donc j'ai ça des deux côtés de la famille et j'en suis très fier.
J'imagine, ouais.
Oui, j'en suis très fier. Pour écrire des romans d'espionnage, on ne peut pas trouver, n'est-ce pas, meilleure partie. Mais en même temps, je trouve que sa trajectoire est incroyable, cet homme qui est trop mal connu de nos jours, c'est un peu passé, son heure de gloire. Déjà en Palestine, comme communiste, il s'efforçait donc de réunir Palestiniens et Juifs dans le même esprit. Il était contre donc le sionisme à l'état brut. Et bien sûr, il n'a pas pu tenir en Palestine. Il s'est retrouvé à Paris comme chef du plus grand réseau d'espionnage qui n'a jamais existé. Et voilà, je voulais lui porter hommage.
Et voir le lien qu'il y a avec votre propre histoire et le récit qui vous amène aujourd'hui. Un son très personnel pour vous, Bojina Panayotova.
1, 2, 3, je vais dans les bois. 4, 5, 6, je cherche des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier, 9.
Bien. Comment t'appelles-tu ?
Je m'appelle Bojina.
Quel âge as-tu ?
4 ans et demi.
On dirait l'école des fans. Vous aviez 4 ans et demi dans cet enregistrement.
Oui, bah donc effectivement, j'ai retrouvé ça il y a pas très longtemps quand je faisais mon film. C'est ma grand-mère qui m'a donné cette cassette audio qui lui était en fait destinée parce qu'elle était au Vietnam. Donc effectivement, ma famille voyageait et donc on lui envoyait. On pouvait pas s'appeler entre la Bulgarie et le Vietnam, donc on lui envoyait des cassettes audio. Et ma mère qui était, enfin toute ma famille en fait était francophile et donc on m'apprenait déjà à parler français et c'était surtout des comptines. C'était des choses comme ça. Et quand je l'ai découvert il y a quelques années, ça m'a fait un peu un choc en fait d'entendre que mon accent tout simplement, d'entendre que
votre
le français,
voix d'avant, en fait, ouais.
Ma voix d'avant, c'est comme mon identité d'avant, et d'entendre que le français à ce moment-là, c'était l'étranger quoi. Et maintenant c'est tellement l'inverse. c'est un peu un vertige pour moi à ce moment-là et voilà.
Un autre vertige, mais du côté de la chanson pour vous de Valfon. Une chanson paranoïaque de Jacques Dutronc.
C'est Lanzmann qui a écrit les paroles. Et je trouve ça génial que des tas de gens disent on se croirait presque en pleine manifestation anti-système. On nous cache tout, on n'y dit rien. Alors que si on continue d'écouter ce que Jacques Dutronc chante, l'obélisque a-t-il été déclaré au fisc, on comprend très bien qu'on va sur une parodie de ces paranoïas. Mais la plupart des gens le prennent au premier degré. Et j'ai trouvé ça très amusant. Et bien sûr, comme on est dans une époque où le rationnel est en plein recul face à des croyances de ce jour, de ce genre, j'ai pensé que cette chanson était diablement d'actualité.
Mais on nous cache tout, on nous dit rien, c'est quand même ce que vous avez vécu, Bojina, on y reviendra tout à l'heure avec vous. Un autre son encore très personnel pour vous. Et on s'est demandé quelle était la valeur de ce bourdonnement, de et bourdon.
Oui. C'est quoi ? Alors en fait, je suis au lycée en France, en classe, en plein hiver, et j'entends ce son. Donc d'abord, j'essaye de chasser ce bourdon, cette abeille. Ouais. Et l'instant suivant, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas d'abeille, elle n'existe pas. Et elle est dans ma tête. Donc c'est d'abord un grand moment de panique, évidemment. Je rentre chez moi, je tape sur Internet... son intérieur tête. Ouais. Et je découvre qu'en fait, j'ai un acouphène. Donc, c'est un phénomène voilà, qui est répandu, hein, que pas mal de gens ont. C'est soit des bourdonnements, soit des bruits aigus qu'on a dans les oreilles, quoi. Et en fait, c'est un moment bon, à la fois d'énorme anxiété, mais aussi d'ouverture, parce qu'en fait, ça fait complètement éclater ma notion de dedans, dehors. En fait, je découvre que mon intériorité est un grand mystère, en fait, qu'il y a un étranger là, potentiellement, enfin un corps étranger qui est là-dedans. Et en fait, ça a déterminé énormément mon intérêt ensuite. Pour la philo et aussi le goût de l'inquiétante étrangeté qu'il y a dans certaines œuvres et qui sûrement doit se retrouver dans mon film, évidemment.
Ah ben ça, je peux vous le garantir, on va en parler dans quelques instants. Tout de suite, je vous propose de retrouver Mieux c'est qu'il fête ses 25 ans de chansons avec son dernier album Les Rescapés, titre de la chanson Les gens quand ils sont les uns dans les autres. Ouais, c'est de la programmation sur France Inter.
Les gens quand ils sont les uns dans les autres, veulent-ils s'alléger de tous leurs tourments, veulent-ils se laver de toutes leurs fautes, veulent-ils retrouver la légèreté, ce moment rare où l'on flotte, où l'on pense enfin avoir trouvé le produit, le remède, le vaccin, l'antidote. Faire l'amour. Faire l'amour. En simulant au cœur mon premier jour. Se jeter de tout du haut de la tour. Les gens quand ils sont les uns dans les autres, quand ils sont peau contre peau, quand ils ont bien refermé la porte, se disent-ils des mots, des choses que l'on chuchote et qui font que la peau aspire la douceur de la phrase, la syllabe presque.
Quelle conversation stupide.
Stan, s'il te plaît, j'essaie de travailler.
J'en ai marre d'à peu près tout.
France Inter.
Bon sang, bon Dieu, de quoi ils parlent?
Leurs affaires ne me concernent pas plus qu'elles te concernent.
Et la curiosité, ça ne dit rien. Putain, quoi, c'est dans la nature humaine.
Le nouveau rendez-vous.
Écoute, la seule chose dont je suis certain au sujet de ce travail, c'est qu'on se contrefiche de la nature humaine et encore plus de la curiosité. Je ne suis pas payé pour être curieux, moi, mais pour mon travail, c'est ça.
Laurent Goumard.
Ouais, mon travail, c'est ça. On ouvre ce plateau avec un son que vous avez choisi de Valfon, un extrait de Conversation secrète, le film de Francis Ford Coppola. On est en 74. Un commentaire par rapport à ce film, au vu de ce que vous écrivez et de ce que vous avez été.
Alors, d'abord, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Un peu méconnu parce qu'il a fait le parrain 2 tout de suite après, et donc ça a un peu gommé, mais enfin ça a eu la Palme d'Or à Cannes quand même. Ensuite, c'est là le cœur, le dialogue que nous venons d'entendre et le cœur de ce que je recherche. En fait, beaucoup de gens vous diront, c'est tragique que l'État m'espionne, je me méfie de l'État, mais l'État, ça ne veut rien dire. En réalité, quand l'État vous espionne, il y a une douzaine de personnes qui vous espionnent au nom de l'État. Et ces douzaines de personnes ont leur passion, leur faille et leur curiosité. Contrairement à ce que Gene Hackman dit dans le film, bien sûr, c'est un déni qui se dénie de lui-même. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire, à l'unité 8200, on sait très peu de ces très jeunes soldats qui ont à leurs moyens des antennes super puissantes, des algorithmes super perfectionnés et des super computers où ils peuvent donc écouter n'importe quelle conversation téléphonique dans le monde.
Dans le monde, hein, c'est dans ça qu'il monde. Faut bien mentionner.
Absolument.
Dans le monde, dans c'est le pas monde. Simplement lié à
Exactement.
L'État d'Israël. Ouais.
Et tout est lié à l'État d'Israël, oui. dans la mentalité de l'unité 8200. Mais justement, c'est ça qui est dangereux. Mais par contre, on a quand même une donnée à l'ouvert, c'est le rapport du Congrès américain sur la NSA, qui est comme l'unité 8200 aux États-Unis. Et là-bas, sur une année, ils ont trouvé 1200 infractions, c'est-à-dire il y a 1200 personnes au service de l'État américain qui ont utilisé les moyens de la NSA, qui ressemblent à ceux de l'unité 8200, pour, par exemple, écouter un top modèle dont ils étaient amoureux. Il y a un type qui a écouté les conversations de son ex-femme parce qu'il lui payait des pensions alimentaires et il voulait voir si elle avait quelqu'un ou non, etc. Donc 1200 infractions, quelquefois de la curiosité à une star de football, ou quelquefois des affaires financières. Faut-il acheter des actions Google maintenant ou bien ça va descendre? Et tout ça donc grâce à cet appareil d'État. Et j'ai trouvé ça bizarre que tout le monde vous dit l'État m'espionne et donc le président est responsable sans comprendre qu'il faut au contraire régulariser les gens qui espionnent pour l'État. Et c'est pour ça, c'est comme ça un peu que le livre a commencé.
Vous, qui étiez-vous justement quand vous avez intégré cette unité 8200?
Alors,
très jeune.
J'étais très jeune, j'étais assez naïf, et c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas écrit ce que j'ai vu et entendu durant ces années de service. Je sentais déjà qu'il me manquait une compréhension du rôle de ces espionnages dans le monde. Et c'est seulement après, quand je suis devenu, entre autres, rédacteur en chef du Haaretz, où j'ai côtoyé des hommes politiques, entre autres un premier ministre donc qui ressemble diablement à Benjamin Netanyahu, où j'ai mieux compris. J'ai vu soudain, je dirais, la grande image. J'ai vu, en m'éloignant un peu, comment ces organisations peuvent aider des systèmes politiques, des affaires de corruption, peuvent pousser à des failles humaines. Et j'ai senti que les ouvrages d'espionnage, les films d'espionnage, à 90%, ne sont pas comme The Conversation de Coppola. Ils parlent d'agents secrets, donc comme John le Carré, etc. Je respecte cela, ça existe. Mais il y a moins de 10% aujourd'hui de l'espionnage qui se fait par ces moyens-là. 90% de l'espionnage de nos jours est un espionnage électronique avec de très jeunes opérateurs qui jouent comme dans des jeux vidéo. Et c'est ça qui m'a semblé important de dire.
Alors, Don Malfon, on va parler du roman dans quelques instants. Vous êtes aujourd'hui correspondante du quotidien Haaretz, donc un journal israélien plutôt centre-gauche. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, parce qu'au départ, c'est un journal de droite qui est devenu à gauche au moment de la guerre du Liban, en fait,
dans les années 80. Alors, le Haaretz fête 100 ans, ouais, cette année. Hein, je suis responsable du centenaire comme ancien rédacteur en chef. Et donc, c'est le plus ancien journal de langue hébraïque qui existe au monde. Et durant toutes ces 100 ans d'existence, il a fait plusieurs petits virages. Mais le plus important, sans doute, a été un virage du centre, on dirait presque centre-droit de nos jours, dans les années 70. Un virage gauche, puis carrément, on pourrait dire en Israël, je crois, ultra-gauche, suite à la guerre du Liban en 1982, qui fut effectivement un cas de conscience pour beaucoup de soldats et d'officiers de Tsahal, mais aussi pour des journalistes. Et le journal a donc maintenant une conscience qui le fait d'ailleurs toujours apparaître dans la liste des 10 meilleurs journaux quotidiens du monde.
Il était lu par Obama, je me souviens, qui citait régulièrement ça. C'était une des premiers journaux qui le regardait.
Ouais. Le roi Abdallah de Jordanie ne commence pas son petit déjeuner sans le Haaretz. Et donc c'est ça, c'est un profond humanisme, mais aussi un profond libéralisme au sens européen du terme. C'est-à-dire, tout doit exister. Nous sommes, par exemple, mon publisher, hein, Amos Schocken, qui est petit-fils de l'homme qui a acheté le Haaretz, et pour non seulement les mariages mixtes juifs-arabes, nous avons été, je pense, pour le mariage homosexuel bien avant que ce soit à la mode, pour la légalisation des drogues, etc. Et c'est mal perçu en Israël de nos jours.
Ça, je peux bien imaginer. Comment vous avez vécu, vous, la réélection de Netanyahou? J'imagine que ce n'était pas une surprise.
Non, pas du tout pour moi. Mon éditeur anglais, quand il a reçu le texte de la traduction, me disait il faut absolument que je le sorte avant les élections parce que tu imagines si jamais Netanyahou n'est pas réélu. Alors je lui ai dit écoutez, ne vous inquiétez pas.
Unité 8200, donc un premier roman chez Liana Levy en France, un premier roman d'espionnage géopolitique, une histoire vertigineuse où tout le monde joue au chat et à la souris, mais qui est le chat, qui est la souris d'ailleurs, c'est ce que se demande un de vos personnages. Point de départ, des fausses pistes et fausses trappes. Aéroport Charles de Gaulle Étoile à Paris, un 16 avril, il est 10h40, un jeune Israélien, il est responsable marketing, est piégé, enlevé par une fausse hôtesse d'accueil, très blonde. Il va être tué quelques pages plus tard par deux Chinois. Dommage, c'était pas du tout lui la cible. Et ça continue. Des morts dans Paris, des assassinats avec plein de versions. Vous nous en donnez à cœur joie, de Valfon. Drones explosifs, la seringue, des fusillades dans un palace, des fusillades dans une boîte de nuit. L'unité 8200 entre en scène. L'unité 8200 dont vous avez vous-même fait partie. Et c'est parti d'ailleurs pour 28 heures haletantes. C'est ça. Et c'est pour ça que ça peut devenir une série. Je sais que ça a été acheté par ceux qui ont fait la série.
Ratoufim qui a donné lieu à Homeland et False Flag aussi. Et
on voit bien d'ailleurs le lien qu'il peut y avoir. C'est parti pour 28 heures haletantes avec un couple d'enfer, le colonel Ziv Abadi, un peu mis sur la touche pour avoir soutenu des soldats qui refusaient de combattre les Palestiniens, et puis cette lieutenante superbe, Oriana Talmor. On apprend plein de choses dans le roman, plein de choses, au-delà même de l'histoire. Les liens entre la NASA et l'État d'Israël. Le magnétophone UR qui a servi pendant la guerre froide. Alors ça m'a complètement étonné. Ce magnétophone,
C'est véridique, je l'ai utilisé moi-même. C'est le seul magnétophone qui est agréé par tous les services secrets du monde. Il a été sur la Lune et ce n'est pas tellement la qualité de l'enregistrement comme le fait que l'on peut réécouter la même conversation dans le cas de 8200 ou la même séquence pour des ingénieurs une centaine de fois et jamais la bande ne va craquer ou ne va se relier. C'est ce qui en fait un domaine de choix pour tout le monde. Il est déjà apparu dans des livres de John le Carré, de Ian Fleming, donc je ne fais que confirmer cette tradition.
Il y a un Premier ministre, d'ailleurs il y a un Premier ministre français, mais il y a aussi un Premier ministre israélien, son nom. C'était prévu au départ qu'il y ait ce personnage, pour vous ?
Oui, absolument. Et absolument, ça me semblait essentiel.
Parce qu'on voit la dimension politique engagée qu'il y a dans le roman.
C'est un thriller politique, et donc, en fait, comme je vous le disais, je ne voulais pas écrire un livre d'espionnage. Après avoir quitté l'unité, j'ai fait des études, je suis devenu journaliste, je suis devenu éditeur, etc.
Vous aviez déjà écrit quelque chose, hein, à propos de ça.
J'écris depuis l'âge de 6 ans. J'ai un texte apparu dans Spirou quand j'avais 6 ans. Merci. Et j'ai écrit des nouvelles, mais je ne voulais pas écrire un roman d'espionnage. Mais d'abord, ceux qui m'ont donné l'idée, c'est l'unité 8200 elle-même, puisque quand j'ai fait une période de réserve, j'ai été appelé, et ils vous font passer un détecteur de mensonges. Et entre autres, donc, ils vous demandent si vous prenez des drogues, si vous avez des amis terroristes, etc. Et une des questions, c'était, est-ce que vous avez l'intention d'écrire un scénario de série télé ou un livre sur ce que vous faites à l'unité 8200? J'ai dit non, l'appareil a dit que je dis la vérité. Mais tout de suite, quand je suis sorti de ce bunker, je me suis dit...
C'est formidable. C'est exactement ce que je vais faire. Ça sera un livre, ça sera un best-seller en Israël et partout dans le monde. Et puis, ça va devenir bientôt une série.
Donc oui, voilà.
L'âge le plus sensible du livre.
D'abord, il était important à la fois de rendre Oriana une vraie héroïne et non pas comme c'est l'habitude dans ce genre de roman.
À faire valoir sexy. Et...
Voilà. Mais en même temps, il fallait montrer le machisme de l'appareil qui, en ce sens, je dois dire que je suis maintenant en France comme correspondant du Haaretz, ça fait un an et demi. Je suis complètement effaré de voir ce qui se passe dans les relations hommes-femmes sur le monde du travail, etc. en France. Donc, c'est encore pire peut-être que ce qui se passe dans l'armée israélienne. Mais je voulais quand même, étant écrivain israélien, parler de ça. Et donc, mettre ces deux choses en équilibre, ça a demandé un certain travail. Mais je suis assez content du résultat.
Au départ, donc, vous aviez quand même commencé à écrire quelque chose il y a longtemps. Je sais que vous avez mis le texte de côté. Pour quelle raison avoir retardé ce moment-là? Et surtout, entre le moment où vous l'avez commencé et le moment où vous l'avez achevé ou retravaillé, les choses avaient véritablement changé, j'imagine, au niveau de la politique, au niveau de la mafia, au niveau de la corruption, au niveau même de la géopolitique internationale.
Soudain, revenir à ce livre semblait urgent. C'est-à-dire les choses que j'avais ressenties il y a 20 ans étaient trop amorphes, n'existaient pas dans le monde où je vivais, et soudain ça venait de tous les côtés. Donc ça me semblait urgent d'y revenir. Les raisons pour lesquelles je l'ai mis de côté, c'est d'abord parce que je n'avais pas la compréhension du monde tel que je veux le décrire. Et donc j'ai attendu, et j'ai lu une introduction de Marguerite Yourcenar sur son ouvrage « Mémoire d'Adrienne » où elle écrivait qu'elle avait écrit quelques chapitres et puis qu'elle avait perdu le manuscrit dans une valise entre ses voyages pendant 20 ans, et elle y est revenue après. Et je me suis dit, waouh, c'est une histoire formidable. Et donc j'ai été très tenté par ça, et c'est comme ça que c'est arrivé.
Netanyahou a lu le roman?
Alors je sais que son cabinet a demandé, puisqu'il ne paye rien. Il ne paye rien de sa poche, donc ça ne lui viendrait pas à l'esprit d'envoyer un de ses nombreux secrétaires.
Et dans le roman, la femme du Premier ministre, qui n'a rien à voir avec Netanyahou, ne paye rien non plus. Elle va chez le coiffeur, mais c'est l'État qui paye. Oui,
oui.
Entre autres.
Surtout que c'est un coiffeur à Monaco, donc il faut organiser toute une série de voyages d'État pour qu'elle puisse aller chez Alexandre de Paris à Monaco. Et c'est un peu la même chose, donc je sais qu'ils ont demandé le roman. Il peut toujours dire que non, il y a une secrétaire qui l'a demandé parce qu'elle voulait le lire.
Ça a suscité des débats.
Oui, d'abord
sur quel niveau
au sein du renseignement, ce qui était extrêmement important pour moi. Je sais qu'il y a eu des débats et je n'y ai pas pris part, mais je sais qu'ils ont existé.
Quels étaient les enjeux du débat?
D'abord, tout le monde savait qu'on donne des outils formidables à des jeunes gens qui sont mal supervisés et qui pourraient avoir l'idée d'en faire autre chose. Donc ça les a pris par surprise, le fait de le lire dans une œuvre de fiction, mais d'un autre côté, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien fait pour suivre cela. Et comme je disais, la NSA a une série d'outils aujourd'hui au Congrès américain, dans d'autres régulations, pour vérifier que ça ne se passe pas. Et donc ils sont sur cette voie où ils aimeraient superviser ce qui se passe à côté de leurs puissants ordinateurs, et j'en suis très content.
Et dans la société, quel type de débat?
C'est surtout, bien sûr, comme chaque chose en Israël, les anti-Netanyahou contre les pro-Netanyahou. Donc j'ai eu aussi des remarques du genre, ouais, bien sûr, t'es de gauche, donc ça va être contre Netanyahou, mais ce n'est pas ça le propos. Et c'est vrai qu'il est là bientôt comme David Ben-Gourion, donc on ne peut pas imaginer. Il y a bientôt des électeurs. Les prochaines élections qui n'ont connu que Netanyahou comme premier ministre, c'est afférent, c'est vraiment affolant d'y songer. Donc ça a été ça aussi. Mais d'un autre côté, ça a remis un peu à la mode le roman d'espionnage, disons un peu humoristique, puisque c'est un roman assez léger quand même. Hein. On n'est pas dans le roman scandinois où il y a un tueur en série atroce et des tortures, je sais pas, très graphique. C'est pas du tout ça. Donc pour les critiques, c'était plutôt une bonne nouvelle.
D'autant plus qu'il y a donc le personnage du colonel qui a une mère particulièrement, on va dire. Burlesque.
Attention, elle vous attend, elle vous entend. J'étais probablement.
J'étais sûr que c'était la vôtre, c'est ça que vous voulez nous dire.
Voilà, je vous avertis.
Il y a quelque chose de personnel dans ce rapport avec la mère entre...
D'abord, c'est un roman juif, donc forcément, il y a un rapport de ce genre. Après, c'est un roman juif tunisien, donc forcément, ça va passer aussi par les maquereaux, le dabla et le couscous aux artichauts. Mais d'un autre côté, ce personnage, qui n'est pas tout à fait ma mère, mais qui n'est pas tout à fait pas ma mère, pouvait, je pense, montrer l'israélienne de nos jours qui serait totalement à droite, qui serait totalement contre ces efforts incessants de faire la paix avec ces gens-là, etc. C'était plus simple de le faire avec la mère du héros qui est, comme vous l'avez dit, soupçonnée d'être de gauche. C'était plus simple de faire ça avec elle.
Je rappelle donc que Unité 8200, signé Dov Alphonse, est paru chez Liana Levy. Vous restez avec nous, on va repartir du côté de l'espionnage en Bulgarie dans quelques instants avec Božina Panayotova. Light on the street, keep me blind. Mystery signé Danger Mouse, un cadre de la production, et Careno, une chanteuse volcanique, la programmation 100% énervée de Jean-Baptiste Audibert.
Pardon, mais c'est qui ce type en fait ?
Laurent Goumard.
Il fait des hypothèses pour lui, tu vois, c'est évident que s'il sortait du pays, si, vu leur métier, etc., ben, voilà, il devait être dans le réseau de la police secrète. Jamais ils m'ont parlé de police secrète, jamais ils m'ont parlé des camps de concentration, tu vois.
Le nouveau rendez-vous.
C'est flippant, enfin, je... C'est la Stasi bulgare, quand même.
Mais en fait, juste, pardon, mais tu vas revenir quand?
Bah, je sais pas, mais... En tout cas, je vais pas rentrer tout de suite.
Sur France Inter.
Ah non, ça, vous n'allez pas rentrer tout de suite. Ce qui est très marrant, c'est que dans cet extrait, vous parlez par Skype à votre mari et vous chuchotez comme si vous étiez espionné, complètement paranoïaque.
Ouais.
Bogina.
Oui, j'avais déjà la maladie qui commençait à infuser de partout. Effectivement, j'étais dans la salle de bain chez mes grands-parents.
À Sofia?
À Sofia, ouais.
Ouais, à Sofia.
À Sofia, j'ai passé, effectivement, je ne suis pas rentrée tout de suite en France et j'ai mis quelques années, en fait. Ça m'a pris quelques années, tout ce
travail autour de cette famille. Vous vivez où aujourd'hui?
Alors maintenant, je suis revenue pas mal en France parce que j'ai un enfant et que c'est beaucoup plus difficile de faire des allers-retours. Mais c'est vrai qu'à la fin du tournage, j'avais très envie, enfin, on s'est acheté un appartement à Sofia pour avoir un pied à terre là-bas et c'était très symbolique aussi, c'est-à-dire l'envie de construire quelque chose là-bas, tourner vers le futur, voilà.
Mais aujourd'hui, retour en France. Bogina Panayotova, Je vois rouge, c'est un film de famille, un film d'espionnage. Vous revenez sur l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, de votre enfance en Bulgarie. Le film est une enquête menée en 2013-2014. Vous avez 30 ans à ce moment-là. Il est temps de passer le permis de conduire et de trouver votre voie dans une vie de non-dits et de secrets. Bande annonce.
Mon enfance communiste enchantée.
Non, mes parents jamais m'ont parlé de police secrète, jamais.
Hein? J'entends pas en fait, j'entends rien.
Réseau. Secret. Agent secret.
Tout le fantasme qu'on peut avoir de ça, et qui là en fait est réel, quoi.
Oligarque.
Virginie Rouzic, qui est la colonne vertébrale de l'émission, me fait demander par voix de ma réalisatrice, qui est l'autre colonne vertébrale de l'émission, est-ce que, en entendant la bande-annonce, est-ce que vous apprenez le bulgare à votre enfant?
Ah oui, Bogina. Oui, c'est vrai, oui, je lui parle en bulgare. Oui, oui.
Vous lui faites chanter, comme on a entendu tout à l'heure, des comptines.
Malheureusement, je ne les connais pas, je ne les connais plus.
Alors ce film, Je vois rouge, c'est votre premier long métrage documentaire. Vous saviez que votre premier film, votre premier long métrage serait un documentaire et qu'il passerait par une histoire personnelle? Ça ne pouvait pas être autrement pour ce geste de cinéma.
Alors, il se trouve que j'ai fait La Fémis et en sortant de La Fémis, j'ai plutôt développé une fiction plus classique. Et qu'à un moment donné, mais qui se passait en Bulgarie justement, et à un moment donné, je trouvais ça un peu bizarre d'écrire ce scénario de fiction depuis la France, alors que je voulais parler de la Bulgarie d'aujourd'hui. Et du coup, je pense que j'avais besoin d'un rapport plus direct et plus personnel, immédiat, comme ça, avec le pays. Et donc, je suis partie avec une caméra toute seule, sans du tout savoir ce qui allait se passer. Je savais même pas que j'allais parler de la police secrète au départ. C'était plutôt l'envie de vivre quelque chose, une expérience qui allait me transformer et me reconnecter au pays, et que j'allais documenter en cours de route.
Exactement. Alors, à ce moment-là, quand même, il y a un concours de circonstances. Donc, il y a des manifestations contre l'État, puisqu'on apprend que, en fait, les anciens sont toujours présents par leurs fils ou par des témoins toujours au pouvoir. Et puis aussi, les archives de la police secrète ont été ouvertes il y a quelques années. Et là, vous vous étonnez, en fait, que vos parents ne vous ont jamais parlé de rien et que vos parents, qui vivent en France depuis pas mal d'années, n'ont jamais demandé à avoir accès à leur dossier. Et ça vous a inquiété?
Alors, en fait, mon père, on en avait déjà parlé avec mon père, j'avais même fait un docu radio pour Arte Radio où en fait je lui posais la question, il me racontait qu'il avait demandé à lire son dossier parce que selon lui, enfin on lui avait dit qu'il avait été surveillé, il avait eu quelques comme ça actes de dissidence en fait au moment de la chute du mur, mais on lui avait dit qu'il y avait rien. Et donc j'avais quand même une vague notion, mais c'était juste mon père et surtout on n'avait jamais parlé de mes grands-parents en fait. Et c'est plutôt sur eux que je pensais fouiller, voilà, parce que là, j'avais une sorte de soupçon bizarre, je sais pas, c'est une intuition, peut-être des conversations entendues quand j'étais petite, mais je ne suis pas sûre. Et là, par contre, on n'en avait jamais parlé, ça, c'est sûr.
Et sur votre père, qu'est-ce qu'on a trouvé alors ?
Alors, sur mon père, rien. On a refait la demande à l'occasion du film. Et de nouveau, enfin, tout le monde est un peu déçu, hein. Il y a ça aussi, parce que lui-même, en fait, pensait qu'il y aurait des tonnes et des tonnes qui, du coup, documenteraient aussi bah, là où il a été un peu rebelle, quoi. Et en fait, non, il n'y avait rien.
Et du côté de votre mère, les choses sont beaucoup plus compliquées, en fait.
Voilà, c'est là où le film, enfin toute cette expérience nous a complètement dépassés. On a perdu le contrôle parce que ma mère était donc traductrice pendant, elle avait 20 ans, donc pendant le régime.
Votre père était peintre et votre mère, voilà, traductrice.
Voilà, avec le français, et donc elle participait à des séminaires où il y avait des français, et donc évidemment les gens qui ont des rapports avec des étrangers sont la première cible des services à ce moment-là. Et donc, en fait, très très vite, j'ai commencé à lui poser des questions d'abord sur les grands-parents. Et en fait, dès qu'on s'est mis à parler d'elle, en fait, pour moi, c'était une évidence qu'il y aurait quelque chose, mais qui serait de l'ordre de la surveillance. C'est-à-dire, bon, bah, elle a été surveillée puisqu'elle
était en contact avec des Français et des étrangers.
Voilà. Et en fait, c'est autre chose qu'on découvre. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose qu'elle n'avait pas elle-même compris. Voilà. On a découvert quelque chose qui l'avait dépassé elle-même à l'époque et qui a fait que ça a aussi provoqué un énorme conflit entre nous, puisque tout à coup, cette caméra qui la suivait partout et qui découvrait cette chose un peu étrange de sa vie était une menace, en fait.
Parce que vous, vraiment, vous travaillez dans tous les domaines. Caméra cachée, archives, vous travaillez par Skype. Tous les moyens sont bons pour documenter, vous dites, le processus d'investigation, de travail.
Oui, alors en fait, petit à petit, plus je voyais que la surveillance devenait le sujet du film, plus je me rendais compte que ces moyens qui sont les miens, en fait, de mon époque, ah oui, de ma génération, faisaient sens, parce que c'est aussi, justement, l'autosurveillance qu'on s'inflige aujourd'hui, quoi, avec toutes ces webcams. Et en fait, effectivement, j'ai commencé aussi à me surveiller moi-même. Il y a un truc comme ça où je suis aussi personnage dans le film. Et il y a comme un point de vue sur moi. On n'est pas obligé d'adhérer à tout ce que je dis et fais.
Ah non, surtout que quelquefois, on est même de l'avis de vos parents en disant elle est complètement paranoïaque.
Exactement.
Là, elle va trop loin dans le processus d'investigation. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez été surveillé, vous, de Valfond? Vous le savez ?
D'abord, je ne le saurais pas.
Ouais.
Et donc, ma réponse serait plutôt oui. Vous savez, soudain, il y a maintenant de plus en plus de lecteurs donc, qui me disent, mais par exemple, une réponse que j'ai beaucoup, c'est, mais qu'est-ce que moi, je suis comptable, je m'en fous si les Chinois ou les Américains ou les Israéliens m'espionnent. De toute façon, qu'est-ce qu'ils trouveraient ? C'est souvent la réplique. Alors d'abord, c'est un droit de l'homme de n'être pas surveillé, donc même si vous n'avez rien à cacher, ça ne veut pas dire que vous devez être pour une surveillance d'État sur d'autres. Et après, les gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être surveillés pour une bêtise, pour quelque chose qui ne les concerne pas, c'est une coïncidence. Et donc, ce serait dommage de ne pas comprendre ça.
Et c'est exactement ce qui est le cas, sans révéler véritablement ce qui est à l'œuvre dans le film. Il y a juste quelque chose sur lequel on peut quand même insister, c'est sur la notion d'agent inventé. Sans préciser qui est l'agent inventé, mais qu'est-ce qu'un agent inventé ?
Oui, alors ça, c'est ce que je découvre aussi pendant le film. C'est que donc les services secrets bulgares avaient besoin de justifier d'un certain nombre de nouvelles recrues pour faire tourner tout simplement le système, justifier des salaires. Et donc, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas à proprement parler informateurs.
Pas du tout, même.
Qui n'étaient pas au courant, en tout cas, de l'être, mais qu'on utilisait comme tel. Et donc, en fait, les employés de la police secrète inventaient plus ou moins les informations qui étaient tirées autour de ces gens-là. Quoi.
C'est-à-dire qu'il y a de la fiction dans l'espionnage tel qu'il était pratiqué. C'est quand même absolument incroyable. Juste une question aussi par rapport à votre père. Donc vous êtes aujourd'hui cinéaste, lui, il était peintre. On voit bien, votre grand-père était critique de cinéma, donc on voit bien toute la filiation. Mais ce qui vous intrigue et qui met à mal la relation avec votre père, c'est que votre père a vendu des tableaux à des gens qui, par la suite, se sont révélés être de la mafia. Et ça, ça vous interroge. Alors que lui-même, et là, on est presque du côté, il est artiste, il faut bien qu'il vive de son métier. Mais qu'est-ce qui vous interroge là-dessus ?
Oui, en fait, je pense que ça, c'est vraiment toute la question de ma génération aujourd'hui en Bulgarie, c'est comment est-ce que ces personnes-là sont les figures de pouvoir et comment... alors, effectivement, les artistes sont... Souvent, enfin, cette question du
comment compromis. Dire
du compromis, de l'implication de l'artiste dans la zone de l'élite et du pouvoir est toujours une question, de tout temps en fait. Mais en Bulgarie, elle a une couleur particulière en fait parce que c'est quand même, la mafia, c'est pas et c'est là où moi, j'ai été prise aussi d'un élan, comme il le dit dans le film, hein, il me le reproche comme une sorte d'élan révolutionnaire. Un peu comme ça au premier degré quoi, où j'avais envie de tout comme expliquer, nettoyer, enfin oui,
le sens du détail, oui. Le film a été vu en Bulgarie ?
Oui, en fait il est sorti en salle l'année dernière et ça a été un gros événement en fait parce que c'est un sujet très tabou. Et surtout le fait de le prendre comme ça à la première personne parce qu'il y a évidemment des
très incarnés, ouais.
Voilà.
Avec une crise familiale,
avec beaucoup d'émotions, en fait, c'est ça. Et du coup, ça permet aussi aux gens de réagir avec leurs émotions. Donc, ça fait débat, hein, là aussi, même scandale parfois. Je sais que les gens sortent du film et s'engueulent parfois. D'autres vont aussi consulter leurs propres archives.
Et suite à ça, justement, les gens ont dû regarder leurs propres dossiers, voir s'ils avaient été surveillés ou agents eux-mêmes inventés. Ou agents, quelquefois.
Ouais,
et c'était une confirmation.
Ouais. Et en tout cas, ça suscite à nouveau un dialogue. Moi, c'est ça que je trouvais important, c'est que les gens essayent de se parler autour de ces sujets sensibles.
C'est ce qui se passe, j'imagine, à la sortie du film, ici même en France. Donc le film est en salle depuis la semaine dernière. Je vois rouge. Merci, Bojina Panayotova. Merci, Dov Alphon.
Merci.
Le NRV, vous l'avez compris, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes avec ça.
Une petite révolution quand le modèle noir bouscule le très réputé musée d'Orsay à Paris.
Eh oui, direction le musée d'Orsay, exposition Le Modèle Noir, une exposition modèle. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.